L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou le journaliste et analyste géopolitique international très connu dans le monde, Pepe Escobar. Avec lui, nous allons analyser à bâton rompu plusieurs sujets concernant la libération le 17 février de la ville d'Avdeïevka par l'armée russe dans la République populaire de Donetsk. Nous évoquerons également son récent voyage dans cet oblast de la Nouvelle-Russie et enfin une rétrospective du coup d'État de la place Maïdan entre le 18 et le 23 février 2014 à Kiev. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Pepe Escobar, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour Kamal, pour moi c'est un honneur de parler avec toute l'Afrique, avec une mention spéciale au Mali parce que je suis un énorme fan et admirateur du Mali. Merci, merci beaucoup.
C'est nous qui vous remercions, tout le plaisir et pour nous et pour nos auditeurs. Alors, le samedi 7 février, le ministère russe de la Défense a annoncé la libération totale de la ville d'Avdeïevka dans la République populaire de Donetsk. Et en repoussant cette ligne de front, la ville de Donetsk se trouve mieux protégée contre les frappes de l'armée ukrainienne qui ont duré environ 10 ans, depuis 2014. Alors, Pepe Escobar, comment analysez-vous cette victoire de l'armée russe? Que symbolise-t-elle quant à la poursuite de l'opération spéciale militaire dans ce pays?
Ah oui, l'importance symbolique et pratique de la libération des Avdiivka est absolument extraordinaire. Et c'est très difficile d'expliquer à une audience globale et notre audience africaine aussi. Moi-même, j'ai seulement compris l'extension symbolique et pratique parce que je viens de faire un voyage absolument extraordinaire au Donbass. Et le focus, justement, c'était Donetsk, où j'étais emmené partout dans les points hyper chaud de la ville, jusqu'à 2 kilomètres de fond. On a eu une réunion au milieu de la nuit avec 2 commandants absolument top des bataillons chrétiens orthodoxes à Donetsk et au Donbass. Et notre réunion, c'était dans un compound à l'ouest de Donbass, mais à 2 kilomètres du front. Tout était plongé dans les noirs, bien sûr, pour éviter les drones ukrainiens. Et c'était extraordinaire parce que dans cette réunion, les commandants avaient dit, ça fait quoi? Ça fait moins de 2 semaines. Ils avaient dit, écoute, l'histoire des Avdiivka, on espère que ça peut être libéré dans quelques jours ou peut-être dans quelques semaines. Une semaine, moins d'une semaine après notre conversation, c'était la libération des Avdiivka. Pourquoi c'est aussi important? Parce que Avdiivka, c'est littéralement à côté de Donetsk. La première chose, nous, quand on revient à Donetsk, dans mon cas, ça faisait plusieurs années. Quand on est arrivé à Donetsk au milieu de la nuit, justement, la première chose qu'on entend sont justement les booms.
Les
bombardements qui sortent et qui rentrent. Mm-hmm. Alors, c'est la bande sonore de Donetsk au fond. C'est toujours les booms. Et on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver quand on est, par exemple, faire les courses dans un marché en heure de l'après-midi. Tout est possible. Et justement, je suis allé dans plusieurs marchés, j'ai parlé avec les commerçants, ils ont dit, tout est possible. Et plusieurs de ces négoces, ils étaient déjà bombardés et les commerçants refusaient d'y s'en aller. Mm-hmm. Très bien. D'autres endroits, il y avait des petits sanctuaires à l'entrée où les gens déposent des fleurs pour les victimes, pour les enfants, etc. Alors, ils m'ont amené dans un endroit extraordinaire qui s'appelle la route de la vie. Mm-hmm. Et ça, c'est un paradoxe absolu parce que c'était pas une route. C'est un chemin sur la boue noire, la boue était presque jusqu'aux genoux. Dans l'ouest extrême de Donetsk, si on continue dans cette rue et on tourne à droite au fond, on est à 5 km de Avdiivka. C'est littéralement à côté. Alors, c'est extrêmement vulnérable. Il y avait un endroit extraordinaire, c'est un temple qui était reconstruit par un prêtre qui était déjà justement bombardé lui-même. Il était pas là parce qu'il était à Moscou en train de se soigner. Et c'est extraordinaire parce que tous les week-ends, il y a, après la liturgie, il y a une distribution d'aide humanitaire fournie par les militaires même de Donetsk. Pour les quartiers, que c'est un quartier hyper exposé. Il y a le trafic des chars militaires tout le temps, justement. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Ils sont obligés de marcher sur la boue pour aller au supermarché plus proche, que c'est très loin. Alors, c'est une zone extrême et extrêmement vulnérable. Et justement, la libération de Avdiivka, pour ces quartiers à l'ouest extrême de Donetsk, ça va changer la donne, oui, fondamentalement. Parce qu'au moins, les fronts ukrainiens sont repoussés à l'intérieur. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va s'y passer à partir de maintenant. C'est possible une débâcle totale de front. D'accord. C'est possible des résistances un peu plus poussées, mais plus loin de Donetsk. Mais au moins, du point de vue de la sécurité de Donetsk, c'est une énorme changée de la donne.
D'accord. Alors là, vous me tendez la perche pour la question suivante, et qui est d'ordre stratégique. Alors, après Soledar et Artyomovsk, Bakhmout, comme disent les Ukrainiens, la prise d'Avdiivka constitue-t-elle un tournant majeur dans l'opération spéciale militaire russe en Ukraine ? Donc, il y a des points stratégiques comme Solidar, comme Bakhmout. Comment s'ajoute Avdiivka à tous ces succès ? Et comment expliquez-vous, dans ce cas, donc, l'entêtement de l'administration américaine et de ses vassaux, disons les choses comme elles sont, de ses vassaux européens, à continuer les aides et les livraisons d'armes à Kiev? C'est ce que nous avons vu lors de sommet de la sécurité à Munich, accord de sécurité conclu par la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni avec l'Ukraine. Et pourquoi continue-t-il à empêcher toute possibilité de négociation pour mettre fin au conflit? C'est ce que même Vladimir Poutine a dénoncé dans son interview avec Tucker Carlson.
C'est une question très complexe, Kamal, en deux volets. On pourrait passer deux heures ici à répondre. Excellente question, d'ailleurs. Bon, dans les volets, les fronts, qu'est-ce qui se passe au front? Avdiivka, c'est déjà la concrétisation d'une offensive russe dans tous les fronts. C'est une offensive pensée, élaborée. Ils passent déjà à l'offensive parce qu'ils savent que les composants moraux et psychologiques des soldats ukrainiens partout dans les fronts est très, très baisse. Et les gens sont en crise parce qu'ils savent qu'ils sont offerts comme des morceaux de viande pour être exterminés par les pouvoirs absolument étonnants de l'artillerie russe, que c'est vraiment non-stop. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'on ne sait pas justement combien de temps cette désintégration du front va durer. Pour les Russes, ça n'intéresse pas. Pour les Russes, c'est ce qui intéresse. Il y a, les numéros de l'histoire sont extraordinaires. Chaque jour, il y a un bataillon russe nouveau qui arrive sur le front. Ça veut dire au moins 1000 soldats très bien formés, entraînés pendant des mois qui arrivent sur le front. Alors, on peut dire que maintenant, sur le front, il y a au moins 300 000 soldats russes prêts à une avance concertée, très bien entraînés, qui font partie d'une offensive coordonnée. Ça peut aller très, très vite ou ça peut mettre des mois. Mmh. Mais ça, c'est un component qui seulement le ministère de la Défense a les chiffres exacts. du côté de l'Occident, c'est ce qu'on a vu. Par exemple, j'ai perdu mon temps très précieux à suivre des conférences, à la conférence de Munich, et c'était vraiment... c'était étonnant. Mais c'était, c'était un festival de stupidité absolument extraordinaire. C'est toujours le même agenda. Mais quand on regardait tous les tables rondes de la conférence de Munich, les sentiments prédominants, c'est un mix de perplexité et de peur. Extrême. Parce que maintenant, ceux qui ont un QI un peu plus, disons, près de la normalité, ont déjà perçu que la humiliation, on peut dire vraiment intergalactique, de l'OTAN sur les terrains de la Novorossie est inéluctable. Et ils n'ont pas un plan B. Parce que le plan A, c'était toujours, c'est ce qui est toujours en place. OK. Avalanche de sanctions contre la Russie, on va détruire l'économie russe, on va détruire les complexes industriels militaires russes, on va provoquer un changement de régime à Moscou, et on va réenvahir la Russie, on va s'accaparer de toutes les ressources naturelles de la Russie, et la Russie va être condamnée à être un paria. C'était ça le plan A. Il n'y a pas de plan B. Et tout ça reposait sur une victoire, entre guillemets, de la Russie sur le terrain en Novorossie. Et maintenant, ils savent que c'est au-delà de l'impossible. Et ils n'ont pas justement un plan B. Alors, ils peuvent faire, comme tu as souligné, Kamal, des accords d'intention de la France et de l'Allemagne avec l'Ukraine, qui sont blablabla, qui veulent... C'est un blablabla, c'est la rhétorique. Un terme pratique, ça veut dire absolument rien. Ou les Américains peuvent dire, OK, maintenant on va envoyer des missiles de longue portée. Ils savent parfaitement que la réponse russe, maintenant, ça va pas être la patience de... Non, maintenant, et Medvedev, par exemple, a déjà dit, alors, si vous faisiez ça, maintenant, votre sein de commandement, on va les attaquer directement. Parce que vous êtes en train de missiles de longue portée contre la Fédération russe. Ça, c'est notre ligne rouge et vous le savez très, très bien. Alors, les volets, qu'est-ce qui peut se passer du point de vue de aide, entre guillemets, des Américains et de l'Europe par l'Ukraine? Alors, on rentre dans la question qu'il n'y a pas d'effectifs militaires, soit américains, soit européens. Il n'y a pas d'armement. Le processus de désarmement progressif de l'OTAN, qui est toujours souligné par le ministère de la Défense russe et par le président Poutine lui-même, ça continue et ça prend maintenant des dimensions vraiment gigantesques. Ils le savent. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des opérations des relations publiques. Ils ont des opérations de...
Donc, par exemple, c'est un peu suicidaire. Parce que moi,
c'est suicidaire, oui.
Moi j'ai vu dans la presse ukrainienne, même dans la presse anglo-saxonne, qui ont interrogé des anciens soldats ukrainiens et qui ont dit, et ces soldats ont dit, mais en réalité, nous, on nous a trompés. On nous a envoyé au casse-pipe au front parce que nous avions fait confiance à ce que vous disiez dans vos médias que l'Ukraine gagnait, que l'Ukraine n'a qu'à tirer sa première cartouche et que les soldats russes vont s'enfuir parce qu'il y a les vaillants combattants ukrainiens qui débarquent sur le terrain. Mais finalement, ils ont dit que lorsqu'on arrive, c'était le hachoir à viande. On était décimés et...
C'est la choix à viande. Il y a justement des images que les Russes sont en train d'analyser, capturées dans les smartphones de prisonniers de guerre ukrainiens, où ils racontent ça. Et même à ses familles directement. C'est la choix à viande. Et on est des victimes. On a été utilisés. Et ça va générer un processus de toutes ces familles, justement, et tous les gens liés à ces soldats dans l'Ukraine contre cette mafia gangstériste qui est au pouvoir autour de Zelensky à Kiev, justement. Et la désagrégation, cette guerre des rats on peut dire, à Kiev, ça prend des proportions gigantesques. C'était l'élimination des Zaluzny, c'était prendre Sirski comme le nouveau ministre de la Défense, ouais, que c'est un incompétent. Ils appellent le général Butcher.
Général Boucher,
spécialiste en défaite dès les chaudrons de Debaltseve en 2015.
C'est un incompétent. Même à Bakhmut, c'était
lui. Et à Bakhmut, c'était lui aussi.
D'accord. Alors, une question avant de passer à l'autre sujet. Vous avez effectué récemment, donc, comme vous l'aviez annoncé tout à l'heure, un voyage dans le Donbass. Alors, on aimerait bien savoir, on aimerait que vous nous en parliez un peu, notamment ce que vous avez constaté concernant la reconstruction des villes libérées, les habitants de cette région, est-ce qu'ils commencent à reprendre une vie normale ?
Ah oui, c'est fondamental, par exemple, parce que j'avais hâte de retourner à Mariupol. Et c'était extraordinaire, parce qu'ils m'ont mené un peu partout à Mariupol. J'ai vu une très, très belle ville, d'ailleurs, au bord de Siov Azov, la mer d'Azov, en train d'être reconstruite en détail. Par exemple, il y a quelques avenues où, à gauche, on voit des bâtiments encore ravagés, et à droite, on voit des bâtiments tout nouveaux. On arrive à des quartiers entiers complètement renouvelés ou qui viennent d'être bâtis justement avec des écoles, supermarchés, tout extraordinaire. Et j'ai parcouru on peut dire c'est environ 25 à 30 kilomètres, la région qui sort du port de Mariupol jusqu'au complexe de Azovstal. Et tout ça était libéré, disons, centimètre par centimètre, par les forces de la DPR, les Tchétchènes, les forces russes, etc., en 2022. Et je suis allé justement à la vieille entrée du complexe d'Azovstal, où il y a eu la rendition de tous les soldats qui n'étaient pas incinérés à Azovstal. Justement, c'était 1700 soldats à l'époque, en mai 2022. Et c'était très important d'être là et de sentir justement la force de l'endroit. L'entrée d'Azovstal, il reste quelques murs. C'est tout. Tout est dévasté à l'entrée. Et les complexes, bien sûr. Et les complexes, il va pas être reconstruit. Il va être transformé dans une autre chose, peut-être un centre sportif, culturel, de loisirs, shopping et tout ça. Alors, tout ça, c'était très important. Et le plus important, Kamal, c'était mon voyage au fin fond du Donbass, dans la campagne, avec les bataillons orthodoxes chrétiens. Et il y avait une espèce de tour d'un prêtre militaire avec des icônes qui allait dans un queue-jeu à un autre queue-jeu en train de faire des prières et de baptiser et de baptiser. Justement, les combattants entre des adolescents jusqu'à la cinquantaine, volontaires qui ont signé un contrat pour être au front et qui font partie de ces bataillons chrétiens orthodoxes. C'était absolument extraordinaire. Alors, si on ne fait pas ça, on ne comprend pas justement, la valeur de la spiritualité russe.
Vous êtes un fin connaisseur de ces choses-là. Vous ne vous arrêtez pas uniquement à l'analyse politique sèche de ce qu'on appelle les sciences politiques, entre guillemets, mais vous allez aussi à cette considération. Est-ce que ce n'est pas cette âme russe, cette culture de la résistance, du don de soi qui s'est exprimé durant tous les siècles de l'histoire russe, mais en particulier durant la Seconde Guerre mondiale, qui est en train de refaire surface à l'occasion de ce conflit, et que, justement, l'Occident ne comprend pas.
Non, pour l'Occident, c'est impossible, parce que l'Occident, ils connaissent, je peux dire, presque rien, sinon rien du tout, du pouvoir de la orthodoxie chrétienne dans la formation de la civilisation, c'est pas l'État russe, de la civilisation russe. Absolument. Ça veut dire ignorer 1000 ans d'histoire russe, comme le président Poutine a fait son résumé de 25 minutes avec la fameuse, au début de la fameuse interview qui était vue par 1 milliard de personnes partout dans le monde. Si on ne connaît pas ça, c'est impossible de connaître soit l'âme russe, soit les pouvoirs de la civilisation russe. Et j'ai eu des multiples exemples pendant mon voyage. Un petit exemple que je peux vous raconter. J'étais mené dans une école, disons invisible, à 2 kilomètres de front, qui était reconstruit par un personnage absolument extraordinaire. Et il a reconstruit l'école. Et à côté de l'école, dans l'école, au fond du couloir, disons, il y a un musée. Ce n'est pas un musée officiel. Il y a un musée de la guerre officielle à Donetsk. Mmh. Ça, c'est un petit musée qui fait partie de l'école où on voit comment les étudiants qui sont en train d'étudier un curriculum très sérieux, histoire, mathématiques, langue. Et à côté, il y a ce petit musée qui trace un parallèle direct avec une très, très belle expo, la guerre patriotique, l'aventure soviétique en Afghanistan et la guerre au Donbass. Et parce que pendant l'Afghanistan, beaucoup de soldats de l'armée soviétique, ils venaient du Donbass, justement. Alors, les enfants peuvent faire retracer au moins 100 ans de l'histoire de la Russie.
D'accord.
Et la continuité de cette histoire est placée ça dans un, disons, the big picture. Et quand on va au musée officiel, le musée de la guerre, l'axe, c'est justement la guerre patriotique.
Hein?
Et lié au passé de la Russie aussi, qui s'est lutté justement contre toutes ces variations d'extrême droite et d'extrémisme, nazi, semi-nazi, crypto-nazi, voilà.
Et l'on peut rappeler le courage, justement,
de
ces populations lors de la bataille de Stalingrad,
oui,
qui a mis à genoux la Wehrmacht. À partir de Stalingrad, la Wehrmacht avait perdu toute possibilité de nouvelles initiatives.
Mais voilà que l'Europe a oublié tout ça.
Malheureusement.
Et voilà, ils essayaient de répéter, faire un Stalingrad 2.0 au Donbass, et on voit les résultats maintenant.
Bien. Alors maintenant, j'aimerais bien passer à quelque chose d'autre, mais qui est dans la continuité de ce que nous venons de développer, c'est de faire une rétrospective du coup d'État de Place Maïdan en 2014 à Kiev, comme nous sommes d'ailleurs en plein. Hein, aujourd'hui, on est le 20. Événements ont commencé le 18.
Oui.
Et le président Yanukovych est tombé le 23 février. Une question fondamentale, donc, ce cas se pose. En démocratie, normalement, et dans le cadre de ses prérogatives, de sa fonction, un président en exercice, avec la force d'un mandat populaire acquis au suffrage universel, n'a-t-il pas le droit de refuser de signer les accords qu'il juge néfastes pour l'économie de son pays?
Oui, absolument. La réponse courte est oui. C'est ce que l'Occident ignore complètement, c'est les choix impossibles de Yanukovych à l'époque. Je vais essayer de résumer au maximum. L'accord avec l'Union européenne, c'était un accord qui détruisait complètement la souveraineté de l'Ukraine. Les conditions étaient extrêmement strictes. C'était surtout un accord élaboré par l'OTAN. Et, les messagers étaient l'Union européenne. Une espèce d'annexation de l'Ukraine de pouvoir de l'agriculture de l'Ukraine à l'Union européenne, une exploitation agricole de l'Ukraine sans aucune contrepartie. Ça veut dire que l'Ukraine serait en train de devenir une espèce de province éloignée de l'Union européenne. Yanukovych a bien compris quand il a lu les termes du contrat. L'autre possibilité, c'était un accord de libre-échange avec l'Union économique eurasiatique. Les premiers membres, bien sûr, les plus forts, c'est la Russie. Il y a le Kazakhstan aussi, Kyrgyzstan, Arménie, Biélorussie. Et les termes, bien sûr, étaient beaucoup plus intéressants pour l'Ukraine, en termes même de garantir un développement soutenable d'économie ukrainienne. Et alors, c'était un choix impossible, parce que Yanukovych, OK, il était à peu près séduit par l'idée d'une espèce d'union avec l'Europe, mais ce n'était pas une union, c'était une soumission absolue. Et bien sûr, ça, d'où il a dit, non, j'ai besoin de temps pour réfléchir et on a besoin d'échanger beaucoup de ces clauses de ces contrats. Et c'est dans cet intervalle de temps que les Américains ont accéléré le processus de Maïdan, parce qu'il était déjà en place. Parce que la cinquième colonne était déjà installée à Kiev. Ils avaient déjà investi au moins 5 milliards de dollars, chiffre explicite, assumé par les Américains et même par la toxique distributeuse de cookies, Victoria Nuland, ouais. Elle-même.
John McCain.
John McCain. Alors, c'est beaucoup d'argent pour un pays en développement, pour un processus qui est basiquement un processus de « OK, on va faire une évolution colorée, une autre évolution colorée en Ukraine ». Tout ça, que j'essaie de résumer pour vous, n'était jamais expliqué au public européen. Jamais.
D'accord. Ouais. Et là, moi, avant de terminer cette première partie de notre entretien, j'aimerais bien citer l'avis d'un économiste, David Turtry, qui est chercheur à l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris, qui dit, mais qui est de même avis que vous, il dit, je le cite, « La proposition faite à l'Ukraine a été, comme je l'appellerais, une stratégie perdant-perdant. Pourquoi ? L'accord correspondait à la mise en place d'une zone de libre-échange entre l'Union européenne et l'Ukraine. Mais cette zone de libre-échange était très défavorable pour l'Ukraine parce qu'elle ouvrait le marché ukrainien aux produits européens et elle en trouverait le marché européen aux produits ukrainiens qui ne sont en majeure partie pas concurrentielle sur le marché occidental. Nous voyons donc que l'avantage est assez peu évident pour l'Ukraine. Pour simplifier, l'Ukraine prenait sur elle tous les désavantages de cette libéralisation du commerce avec l'Union européenne et ne recevait aucun avantage. » Fin de citation. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien, chers auditeurs. Je vous retrouve en compagnie de mon invité, Pepe Escobar, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le journaliste et analyste géopolitique international très réputé dans le monde, Pepe Escobar. Pepe Escobar, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission.
Merci beaucoup, Kamal. Pour moi, c'est un énorme plaisir de parler avec toute l'Afrique.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, nous allons continuer sur ce que nous avons commencé dans la première partie concernant le coup d'État de Maïdan. Mais là, on va essayer de faire la liaison ou la relation entre ce coup d'État et l'opération spéciale en Ukraine, et puis avec ces deux objectifs, démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Alors, je voudrais faire juste un tout petit rappel. Alors, malgré donc, la grande diversité des mouvements politiques ayant participé au coup d'État, justement, du 23 février 2014 à Place Maïdan, à Kiev, les observateurs, dont vous faites partie, M. Pepe Escobar, pointent en particulier le rôle de deux mouvements parmi eux d'extrême droite. Alors, le premier est Svoboda, c'est Liberté en ukrainien, qui est un parti d'extrême droite ultranationaliste dirigé par Oleg Tianoubok. Et Svoboda a fait donc couler beaucoup d'encre à cause de ses positions xénophobes, antisémites, homophobes, anti-russes et anticommunistes. Puis, il y a le second groupe factieux et le plus violent de tous, est appelé donc Pravi Sector ou Secteur Droit. Il représente la coalition d'une multitude de groupuscules d'extrême droite, radicales et fascistes qui considèrent que Svoboda est trop libéral pour eux. Alors, il crée en novembre 2013 l'organisation créée donc en 2013, l'organisation pour leader Dmytro Yarosh, le chef d'une organisation d'extrême droite nommée Trizoup, ou Trident, qui est réputé être le noyau dur de la brutale dissidence, justement, qui s'est exprimée lors de ce coup d'État. Et dans une interview au magazine Time, publiée le 4 février 2014, Yarosh a déclaré, je cite, « Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des soldats de la révolution nationale ». Il a aussi révélé dans cette interview que sa coalition avait amassé un arsenal d'armes létales et de préciser, je le cite, « juste assez pour défendre l'Ukraine des occupants internes », donc les membres du gouvernement, bien sûr. Et en effet, de nombreuses photos et de vidéos ont circulé montrant des militants du private sector en tenue paramilitaire, en train de s'entraîner publiquement sur la place Maïdan, impliqués dans des échauffouries d'une extrême violence avec les forces de l'ordre, utilisant également des armes à feu. Alors, après la chute du gouvernement, et c'est là où je voulais en venir, donc Dmytro Yarosh a été nommé adjoint au président du Conseil de sécurité et de défense nationale d'Ukraine, et le 2 novembre 2021, Vladimir Zelensky, président de l'Ukraine, a nommé Yarosh au poste de conseiller du commandant en chef des armées ukrainiennes, le général Valery Zaloujny, qui a été remercié cette semaine. Et il a dirigé le bataillon Azov du colonel Andrei Belitsky et un groupe de jeunes de combattants étrangers pour pilonner la frontière du Donbass durant la conférence de la sécurité de Munich tenue entre le 18 et le 20 février 2024, c'est-à-dire une semaine avant le début de l'opération spéciale russe. Bien. Alors maintenant, ma question, Pepe Escobar, à voir ces mouvements néo-nazis prendre une telle ampleur en Ukraine, on ne peut pas ne pas penser au réseau State Behind, utilisé déjà dans les années 50 par l'OTAN contre l'URSS, et dont le premier chef n'était autre que Stepan Bandera lui-même, le chef des collaborateurs avec le régime nazi en Ukraine. Alors, qu'en pensez-vous, d'un côté, et puis l'autre, l'objectif de dénazification et de démilitarisation de ces pays n'est-il pas, in fine, parfaitement justifié?
C'est parfaitement justifié, parce qu'on peut dire que c'est une espèce de remix de l'opération Stay Behind. Par exemple, les Américains, avant Maïdan, ils étaient déjà en train de cultiver des relations très étroites avec Svoboda, avec Pravi Sektor et avec le bataillon Azov. Disons que ce sont des différentes déclinations de nazifascisme. En gros, ils sont tous extrême droite, nazifascistes ou, dans le cas des bataillons nazis, absolument fasciste. Les tatouages, toute l'iconographie nazie, disons, retraduit en ukrainien, c'est exactement la même chose. Et ça prouve, c'est toujours la même histoire, les Américains et l'OTAN, ils sont très prévisibles parce que c'est toujours les mêmes modus operandi et les mêmes plans A sans plan B. C'est divisé pour régner à l'Empire américain et à l'Empire britannique. Les Américains sont des héritiers. Et cultiver toujours les forces plus réactionnaires parmi ses alliés, dans les cas de l'Europe et dans les cas de l'Ukraine. Si on peut qualifier l'Ukraine d'allié ou pas, une terre ou c'est seulement un boucher. Et c'est tout ce qu'ils ont appliqué au sud-est de l'Asie, en Amérique latine pendant les années 60-70, partout dans le monde en développement. C'est divisé pour régner et on va cultiver les forces plus réactionnaires. Ça explique par exemple Al-Qaïda et l'État islamique. C'est exactement la même chose. L'État islamique, c'est une version monde arabe du bataillon Azov en Ukraine et vice-versa.
Dans l'arbre ou la racine, c'est l'opération Stay Behind.
Oui, les gladios, et l'arbre, la racine, l'opération Stay Behind. Oui,
et après, les branches, on peut dire qu'un isme envoie un autre. Nazisme, islamisme, djihadisme, c'est juste. C'est le même fruit en réalité.
Oui, Kamal, parce que c'est toujours le même raisonnement, entre guillemets. la même oblitération de l'autre, pour ces gens qui font la politique extérieure américaine, l'autre est toujours quelqu'un à être jugé, jamais respecté. C'est toujours une relation pyramidale et c'est toujours, ils sont tous en bas et nous sommes les pouvoirs dominants et éternels. Ça veut dire les siècles américains, 20e siècle, ils croyaient qu'ils pouvaient être reproduits le siècle 21 américain aussi. Et surtout à l'époque du 11 septembre. Le 11 septembre, c'était pour eux, pour cette élite, et je dirais bipartidaire américaine. Et ça, j'ai dit comme les complexes industriels militaires pris d'un l'ensemble. C'est ce que notre ami Ray McGovern, ex-analyste de la CIA, c'est un très bon ami. Il a, et son expression est absolument extraordinaire. Il l'appelle Missy Matt. Et Missy Matt, c'est une dérivation de Mickey Mouse. Ça veut dire les complexes industriels, l'acronyme en anglais, les complexes industriels, militaires, congressionnels, information, médias, académies et think tanks. Et c'est vrai, quand on vit à Washington et quand on voit comment ça fonctionne, c'est une boule. Et ils sont incapables de raisonner en dehors de la bulle. Parce que tous ces intérêts sont imbriqués. Justement, par exemple, c'est ce que, je donne un exemple très concret, très direct. Le Washington Post, c'est un journal de la CIA. Ça veut dire que la CIA utilise les chroniqueurs, les reporters du Washington Post. Qu'est-ce que la CIA veut faire? Comme le New York Times à New York, c'est les journaux du département d'État. Mm-hmm. Alors, il y a cette subdivision interne, mais tous...
Convergent sur le même but.
Exactement, c'est toujours le même but. Exemple classique, pendant disons, presque un an avant l'invasion et destruction de l'Irak, qu'on savait que c'était inéluctable. Mais ils ont mis un an pour développer les stratégies, comment vendre ça à l'opinion publique américaine, comment vendre ça au reste du monde. Ils n'ont pas réussi à vendre en Europe, d'ailleurs, parce que les Français et les Allemands étaient contre. Et à l'époque, il y avait une alliance informelle entre la France, l'Allemagne et la Russie. Et ça, Kamal, c'est très important parce que les néocons, ils n'ont jamais oublié ça. Ils n'ont jamais oublié que la France, l'Allemagne et la Russie étaient contre l'opération des néocons en Irak. Et 20 ans après, ils disent « OK, on va essayer de détruire la Russie via l'Ukraine. » Et on va
essayer l'Allemagne.
Et on va essayer de détruire la France et l'Allemagne comme les principaux pouvoirs de l'Europe. Et ça nous plonge directement dans qu'est-ce que les Américains veulent pour l'OTAN et pour l'Union européenne. Une autre axis de pouvoir. Et ça, c'est Londres, Varsovie, Vilnius, Kiev. Pour la classe dominante du establishment américain, l'Union européenne et l'OTAN, ce n'est pas France-Allemagne. Ça, il faut les détruire, pas tous les moyens possibles. Allemagne, ils ont déjà détruit l'Allemagne.
Ouais.
Parce que l'opération de déindustrialisation de l'Allemagne est un énorme succès tactique des Américains. Pour l'instant. On ne sait pas combien ça va durer. Et la France est complètement désorganisée parce qu'on a le macronisme, que c'est un gouvernement de Rothschild. C'est vraiment une mauvaise blague. Alors, les Français s'auto-détruisent. You know. Alors, le déplacement de cet axe vers Londres, Varsovie, Vilnius et Kiev, ça, du point de vue de Londres, Varsovie et Vilnius, c'est très solidifié et ça va continuer à être solidifié. Kiev, bien sûr, ça va... Peut-être ça va même pas exister, Kiev.
Ouais.
Mais il comptait Kiev comme les bras extrême Europe de l'Est de l'OTAN, au bord de la Russie et avec des missiles pointés sur la Russie. Ça, ça faisait partie.
Même nucléaire.
Ça faisait partie du plan A, oui.
Donc, le deuxième volet de l'opération spéciale, la démilitarisation, comment vous l'analysez?
Ah oui, mais ça, du point de vue russe, c'est un succès. Les succès tactiques des Américains, détruire, de faire l'Allemagne se suicider. C'est un succès. Le succès russe, c'est l'opération de démilitarisation de toute l'OTAN. Et maintenant, l'OTAN commence à voir cet idiot suprême Stoltenberg. Lui-même a déjà aperçu. Il n'est pas très, you know. Mais il a déjà aperçu ça. Et on l'a vu dans la conférence de Munich, il était déjà en panique absolue. Et maintenant, il y a en panique absolue. Et les Américains sont... du Missimat, justement, de complexe, ont déjà vu ça parce qu'on voit déjà des articles de fond, justement, sur le Washington Post, le journal de la CIA, ils commencent à dire... peut-être on va perdre cette guerre. Et alors, on va faire quoi?
Je ne sais pas si vous serez d'accord, l'opération spéciale, l'arrêt de l'opération spéciale, la décision a changé de camp. Maintenant, la décision, elle est en Russie. On a lancé la guerre, c'est-à-dire contre la Russie via l'Ukraine, pour faire plonger la Russie dans une guerre d'usure,
oui.
Finalement, pour la détruire économiquement et militairement. Mm. Ah, mais c'est l'inverse qui s'est passé. C'est la Russie qui, avec l'opération spéciale, a fait plonger l'OTAN et tous les alliés de l'OTAN dans une guerre d'usure du complexe militaro-industriel et même de leurs économies.
Alors, et ça, c'est les boomerangs très prévisibles des sanctions. Sanctions, elles ne fonctionnent jamais. Ils ont sanctionné l'Iran pendant 40 ans. On regarde l'Iran maintenant. L'Iran est en train d'émerger comme une grande puissance du Sud global. Après plus de 40 ans de sanctions. 60 ans de sanctions contre Cuba. Cuba résiste toujours. Toutes les sanctions de la planète, imaginées, pas imaginées, contre la Russie. L'économie russe, maintenant, c'est la cinquième économie de la planète par PPP, pouvoir d'achat. C'est absolument extraordinaire. C'est toujours le même thème, ils sont incapables de penser dehors de la fenêtre. Ils appliquent toujours la même procédure et c'est toujours la même défaite. Et le cas de la Russie, c'est une défaite amplifiée au maximum. Parce que maintenant, on a un complexe industriel militaire russe qui fonctionne à bloc, mais complètement à bloc. La Russie a, disons, militarisé une partie de son économie avec un succès extraordinaire. C'est la principale puissance militaire et nucléaire de la planète. Avec les armes nucléaires plus développées, avec les missiles hypersoniques que personne peut, d'après les meilleurs spécialistes, inclus mon ami Andrei Martianov, c'est un décalage de moins deux générations, peut-être trois, et pour les Américains, c'est déjà perdu cette guerre. Ouais. La Russie est au-delà de tout en termes d'armes hypersoniques.
Je voudrais quand même évoquer un aspect avec vous, Pepe Escobar, parce que vous connaissez aussi justement le côté occidental. Alors, durant ce coup d'État de Maïdan, des hauts responsables occidentaux, notamment américains, comme John McCain et la distributeuse
de biscuits, ouais.
De biscuits ou de casse-croûte, donc Victoria Nuland, se sont rendus donc, en Ukraine durant ces événements où ils ne s'étaient pas, justement, c'est ça où je voulais évoquer, s'étaient pas dérangés ni embarrassés de poser avec les gens, les néo-nazis de Svoboda ou de Pravi Sektor. Mm. Alors que ce dernier, par exemple, comme Tian Nubok, alors que ce dernier aurait été interdit l'année d'avant, c'est l'année d'avant 2024, d'entrer aux États-Unis en raison de ce discours antisémite. Et à Kiev, McCain s'adressa aussi aux révoltés du Maïdan le 14 décembre 2013, quand tout ça a commencé. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, que nous sommes ici pour soutenir votre juste cause, le droit souverain de l'Ukraine à choisir son propre destin librement et en toute indépendance. Et les destins que vous souhaitez se trouvent en Europe. Voilà, qui est dit. Donc, mais plus que ça, il y a toutes les organisations de la promotion de la démocratie, donc l'IRI, la NED, et ainsi de suite, l'argent qui est distribué, la NDI d'Albright, et ainsi de suite. Alors, moi, la question qui me... D'où vient d'abord cet aspect-là de nonchalance quant à ces idéologies. Comment on peut expliquer que le pays qui a participé à défaire le nazisme, ses élites, aucun problème, c'est-à-dire défiler et normaliser la présence ou l'existence de ce genre de groupe dans une société. Et comment cette politique-là d'ingérence tout le temps, sans arrêt?
Mais c'est l'essence de l'Empire américain, en gros. Le fameux motto de que l'Empire américain a passé plus de 90% de son existence en guerre, c'est ça. C'est un empire de guerre. J'ai l'appelé dans un de mes bouquins publiés en fin 2014, l'Empire du chaos. Et justement, j'ai pris cette expression « Empire du chaos » d'un français. Un excellent analyste politique, Alain Jox. Il a écrit un bouquin en 2002, si je ne me trompe pas, qui s'appelait en français « L'Empire du chaos ». Et j'ai repris, j'ai donné les crédits à Alain justement, j'ai repris en anglais justement « Empire of Chaos ». C'est l'Empire du chaos en anglais. C'est la logique de l'Empire. C'est un empire qui est basé sur une attitude guerrière totale contre tous les restes du monde d'ailleurs, même les alliés, hein, basé sur instaurer un chaos pour contrôler les vassals et les non-vassals. Et ça s'est reproduit dans, justement, l'opération Stay Behind et Gladio, qui sont maintenant, ils ont la version 2.0, à l'intervention au Vietnam, justement, que c'était une intervention. Ils ont créé un prétexte pour intervenir au sud-est de l'Asie. Mais ils apprennent jamais de leur défaite. Par exemple, je vais vous donner un exemple très intéressant. J'ai eu une conversation avec l'ex-ambassadeur de Sri Lanka en Russie pendant les forums de Valdai à Sochi l'année dernière. Et il a dit, nos amis russes, ils peuvent apprendre quelque chose des communistes. Il ne se référait pas au communisme en Russie. Il a dit, il faut se souvenir toujours que l'Empire a perdu 3 guerres confrontées avec les communistes. Ils ont perdu contre la Chine, ils ont perdu contre la Corée du Nord, ils ont perdu contre le Vietnam. Et c'est vrai, dans différents niveaux, c'était toujours des pouvoirs communistes qui ont fait face à face avec l'Empire et l'Empire a croulé. Court terme, medium terme ou même long terme comme au Vietnam. Et dans les cas de la Chine, les Américains, ils ont pointé sur les Kuomintang et ils ont dit « Ah non, les communistes sont très dangereux, ils ont perdu. » Et dans les cas de la Corée du Nord, on peut dire que c'était techniquement, c'était
un dessin.
Oui, justement, non, pas du tout. C'était une victoire de la Corée du Nord qui était presque détruit. Pyongyang s'était bombardé, presque détruit à 80% par les Américains. Ils sont pas rendus, ils ont 20. À la fin, c'était une victoire et la constitution de la DPRK, comme maintenant, c'est une grande puissance du monde global, à part toute l'idéologie. Et maintenant, il a une alliance de facto très sérieuse de la Corée du Nord avec la Russie et la Chine pour le développement, justement, du nord-est de l'Asie et de l'union de la Corée du Nord avec l'extrême-est de la Russie.
Pourquoi les pays européens comme l'Allemagne et la France avaient trompé la Russie plusieurs fois, y compris lors de ce coup d'État, parce qu'il y a le président Poutine qui a révélé qu'on l'avait appelé pour lui dire de calmer Yanukovych pour qu'il ne sorte pas l'armée ou les forces spéciales et qu'eux, de leur côté, ils vont calmer les révolutionnaires, entre guillemets.
Les radicaux,
mais en réalité, ils n'ont rien fait. Ils se sont portés garants, mais ils n'ont rien garanti.
Au contraire, dans les coulisses,
ils les poussaient.
Vous avez des terrains libres en face.
Il y a les accords de Minsk aussi.
La même chose.
Et deux, qui n'ont pas été respectés. Et qui auraient pu aussi, qui auraient pu quand même empêcher que le conflit, si on les avait appliqués, de se déclencher.
L'accord de Minsk, c'est J'ai une lecture un peu différente de ce que le pouvoir russe est en train de transmettre. C'est difficile à croire que Poutine était naïf au point de croire que la France et l'Allemagne seraient en train d'expliquer à Kiev, écoute, il faut respecter l'accord et tout ça. Non. Je crois que l'intelligence russe savait dès le début que ce n'était pas le cas. Mais la Russie n'était pas prête à agir à l'époque. Ça, je crois que c'est une interprétation un peu plus réaliste. La Russie a pu agir il y a 2 ans, au début de l'opération militaire spéciale, parce que maintenant, ils étaient prêts dans tous les points de vue, militaires, économiques, financiers, etc. À l'époque, quand ils ont vu que, OK, l'accord de Minsk, c'est rien, c'est n'importe quoi, c'est un blablabla, comme a été reconnu après par Merkel elle-même, mais la Russie n'était pas suffisamment forte à l'époque pour agir. D'où cette explication de Poutine, que c'est une explication très malin, je dirais, mais pas nécessairement la vérité.
Aussi,
oui, j'étais trompé par la France et l'Allemagne. Non, je ne crois pas que l'intelligence russe était trompée. Pas du tout.
Mais on peut aussi, c'est-à-dire à mettre à son crédit qu'on pouvait au moins, c'est sûr, bien sûr, il faut rappeler que la Russie, elle est gouvernée par des gens de l'ancienne génération.
De l'ancienne génération.
Qui ont vécu la guerre froide. C'est-à-dire, comme on dit dans l'adage public, ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Mais on pouvait quand même espérer, c'est là ma question, espérer un geste de bon sens de la part de la France et de l'Allemagne. Parce que déclencher un conflit entre la Russie et l'Ukraine en Europe, les premiers qui vont le payer, c'est les Européens, et c'est le cas.
Alors, les vrais naïfs, Kamal, étaient justement les Français et les Allemands. Parce qu'ils étaient en train... Quand ils ne faisaient rien vis-à-vis les excès de Kiev, justement, par exemple, continuer à bombarder les populations civiles en Donbass, ils suivaient l'agenda américaine. Il n'y a pas une agenda européenne. Il y a seulement une agenda. Elle vient de Washington et elle va directement de la Maison-Blanche, du Pentagone et du Département d'État à l'OTAN et de l'OTAN à l'Union européenne. Les capitales nationales comme Paris et Berlin sont des adjoints, sont des vassals. Alors, les ordres viennent de Washington. Alors, la France-Allemagne vis-à-vis Minsk, et ça, je crois que ça, c'est la réponse plus courte et directe, ils suivaient l'agenda américain. D'où, ah non, on va rien dire. Kiev, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On va rien
D'accord.
dire. Et je suis sûr que l'intelligence russe était au courant de tout ça dès le début. Ils savaient que Minsk était déjà...
les services dans l'enseignement.
Justement, ils savaient que Minsk était détruit dès le début.
D'accord. Bien, alors la dernière question, elle sera dans l'ordre un peu plus général et géopolitique, mais qui va dans le même sens. Donc, en plus de ce qui se passe en Europe et en Ukraine, la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien fait craindre un embrasement régional entre les alliés des deux camps. La situation extrêmement tendue dans le détroit de Bab el-Mandeb, par exemple, sur le golfe d'Aden, reliant l'océan Indien à la mer Méditerranée via la mer Rouge et le canal de Suez, est l'exemple justement frappant, le plus frappant, depuis que le mouvement Ansallah a décidé de fermer ce détroit aux bateaux israéliens, puis après aux bateaux américains, anglo-américains, suite au bombardement du Yémen par les États-Unis et le Royaume-Uni. Et pour cause, le trafic maritime de la mer Rouge a chuté de moitié par rapport à l'été 2023. Les navires transportant de la nourriture sont obligés actuellement de complètement contourner l'Afrique via le Cap de Bonne-Espérance et avec tous les risques et l'inflation qu'elle engendre. Ainsi, ma question, Pepe Escobar, comment lire tous ces événements dans la perspective de l'émergence d'un nouveau monde multipolaire?
C'est une très, très bonne question, Kamal, parce que ça suscite à affirmer le concept des axes de résistance. Et j'ai eu une illumination au milieu de la nuit à Donetsk, un jour. Quand j'ai parcouru les fronts du Donbass avec ces bataillons orthodoxes chrétiens, et j'ai vu la solidité morale, la force de l'esprit, l'esprit communautaire, l'esprit de sacrifice et la lutte pour leur terre, bien sûr, pour leur langue, tout ça. Mais c'est incroyable. Ça, c'est l'axe de résistance slave dans la terre noire de la Novorossie contre une offensive d'un Occident, justement, qui a diverses gradations de nazifascisme implantées un peu partout. Et c'est un équivalent, justement, de l'axe de résistance à l'ouest de l'Asie, l'ex-Moyen-Orient. Ça fait beaucoup de temps que j'utilise plus le terme Moyen-Orient qui est un terme eurocentrique et orientaliste.
Ouais, et ça explique quoi.
Mais justement, là-bas, c'est ouest de l'Asie au sud-ouest de l'Asie. Comme on parle, par exemple, de l'Asie centrale, Ouzbékistan, Turkménistan, etc. Alors là, on voit, par exemple, tout ce qu'ils font, les différentes factions vecteurs en Palestine. Hamas, Islamic Jihad, Front de libération de la Palestine, etc. Hezbollah, les milices qui travaillent en Syrie pour expulser les Américains et pour lutter contre l'État islamique. Hashd al-Shaabi en Irak, qui sont justement divers groupes. Je les visitais justement la dernière fois que j'étais à Bagdad. On a parlé directement avec Mohandes avant qu'il était assassiné par les D'accord. Américains avec Soleimani et tout. Alors j'ai bien compris en parlant avec eux justement, ce sont les mêmes caractéristiques dans un point de vue du chiisme justement. Et alors c'est une question très complexe, mais c'est les mêmes esprits et c'est les mêmes forces de caractère qu'on trouve avec ces bataillons chrétiens orthodoxes au Donbass. Ça c'est vraiment une illumination de faire cette... Et on peut faire, et on peut, pour répondre à ta question du point de vue de l'Afrique, tous ces gouvernements et tous ces militaires en Afrique qui essaient de finalement s'écarter du néocolonialisme français, c'est un axe de résistance aussi. Niger, Burkina Faso, au Mali, sans aucun doute. Et ça, pour nous, occidentaux, quand on voit ça, c'est pas « waouh ». Ça, c'est les nouveaux mouvements non alignés qui c'était impossible de... Dans les années 50-60, les Américains étaient trop puissants à l'époque. Ils ont détruit le mouvement des non-alignés par... tous les moyens nécessaires. Mais maintenant, non. Et maintenant, on a ces axes de résistance dans l'ouest de l'Afrique, l'Afrique francophone, au ouest de l'Asie, justement cet arc chiite, et dans les terres slaves, Novorossie, justement, slaves. Et c'est extraordinaire. Par exemple, on peut dire que la Corée du Nord, c'est un axe de résistance aussi. À part tout jugement idéologique sur les gouvernements à Pyongyang. Ça, c'est pas les... Mais les concepts de base, ça, c'est une chose que j'ai appris quand j'ai visité justement la Corée du Nord, quand ils m'ont expliqué en détail leur point de vue vis-à-vis tout ce que l'Empire a jeté contre. Et le cas de l'Yémen que je trouve particulièrement extraordinaire.
Ouais.
Le cas de l'Yémen est extraordinaire dans tous les sens parce que quand on voit, par exemple, c'est ce qu'ils disent les représentants houthis au gouvernement, les premiers ministres, ils disent pour nous, il a une obligation morale, humanitaire et religieuse de défendre notre peuple. Ils mettent notre entre guillemets et c'est quoi? C'est toutes les terres de l'islam, y compris une terre fondamentale pour l'islam, que c'est la Palestine. Mmh. Et tout ça, c'est une grandeur d'esprit absolument incompréhensible pour l'Occident. Mais elle est comprise partout dans le monde en développement. Elle est comprise par les Africains, elle est comprise par les gens du ex-Moyen-Orient, oui. Elle est comprise par les Chinois, elle est comprise par les Iraniens, elle est comprise par les Russes, justement, c'est la défense de leur terre, de leur culture et de leur civilisation, l'islam, contre justement un attaque du pouvoir hégémonique.
Ben, merci beaucoup, chers auditeurs. Notre entretien arrive à sa fin. Pepe Escobar, encore, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci beaucoup, Kamal, et merci à vous tous partout en Afrique. Et l'Afrique, comme on dit en anglais, l'Afrique is the real deal. Merci. Vous êtes le futur.
Merci. C'était le journaliste et analyste géopolitique international Pepe Escobar. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.